Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
L'examen attentif de ces cas et de tous les éléments disponibles nous conduisent à penser que ces caillots sanguins sont des effets secondaires très rares du vaccin.
L'Agence européenne des médicaments donne son feu vert au vaccin Johnson, balance bénéfice-risque positive selon l'EMA qui ajoute toutefois les thromboses sur la liste des effets secondaires très rares. Une bonne nouvelle pour la campagne de vaccination française. Elle va d'ailleurs s'élargir dès ce week-end. 400 000 travailleurs de deuxième ligne vont bénéficier de créneaux dédiés, chauffeurs de bus, éboueurs ou encore caissiers à condition d'avoir plus de 55 ans. Olivier Véran favorable à une levée des restrictions par territoire, autrement dit d'abord dans les zones où le virus circule le moins. Très bonne idée, lui répond le maire de La Roche-sur-Yon en Vendée, qui imagine déjà sa ville comme un laboratoire du déconfinement. Le gourou complotiste soupçonné d'avoir organisé depuis la Malaisie l'enlèvement de la petite Mia fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Nous avons pu le joindre, il félicite les ravisseurs mais reste flou sur son rôle exact. Dans ce journal également, le décès arme à la main du président tchadien Idriss Déby, allié et précieux de la France dans la lutte contre les terroristes au Sahel. Le verdict d'une minute à l'autre du procès de Derek Chauvin, l'ex-policier à l'origine de la mort de George Floyd. Et puis le foot, les quarts de finale de la Coupe de France avec les amateurs de Canet-en-Roussillon qui sont en train d'affronter les pros de Montpellier, Romain Boselli.
Ouais, effectivement, et l'exploit est peut-être en marche pour Canet qui mène 1-0 à la mi-temps. Ça va repartir dans quelques instants. But signé Toufik Wadoudi sur pénalty et Montpellier est à 10 avec le carton rouge reçu par Hilton.
Merci Romain et à tout de suite. La météo, elle sera plus humide demain, notamment sur le grand quart sud-est avec des averses parfois orageuses, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en très forte baisse, moins 2,09% à 6165 points. Et tous les détails à venir dans Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. La France compte une licorne de plus, entreprise dont la valorisation dépasse le milliard d'euros. Elle s'appelle Alan et son cofondateur Jean-Charles Samuelian est l'invité ce soir d'Emmanuel Duteil. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nous aurons donc bien un quatrième vaccin pour lutter contre le Covid, le Janssen du laboratoire Johnson & Johnson. L'Agence européenne des médicaments a validé aujourd'hui son utilisation. Elle estime que les bénéfices sont supérieurs aux risques, en l'occurrence de développer des thromboses graves, ce qui a poussé les États-Unis à suspendre ce sérum. Il n'en est pas question pour le régulateur européen. L'EMA demande juste, comme pour l'AstraZeneca, à ce que ces caillots sanguins soient ajoutés sur la liste des effets secondaires très rares. Alors concrètement, pour nous, en France, Anne Le Gall, qu'est-ce que ça signifie pour la suite de notre campagne vaccinale ?
Oui, cela signifie que la vaccination avec Janssen va pouvoir commencer sans doute en début de semaine prochaine en France. Alors il faut pour cela un dernier feu vert de la Haute Autorité de Santé, mais le ministère a déjà prévenu, ce vaccin Janssen sera réservé aux Français de plus de 55 ans, même règle que pour AstraZeneca, car on sait que le risque de thrombose est encore plus limité dans cette tranche d'âge et que le risque de forme grave du Covid, lui, est augmenté. Le vaccin de Johnson & Johnson a l'avantage de ne nécessiter qu'une seule injection. Il sera accessible en ville via les médecins et les pharmaciens. 200 000 doses ont déjà été livrées à la France et elles sont actuellement stockées chez les grossistes répartiteurs. 200 000 autres seront livrées d'ici fin avril et nous attendons près de 2 millions de doses de ce vaccin Janssen au mois de mai. Des livraisons conséquentes donc qui viendront s'ajouter à celles des trois vaccins déjà disponibles chez nous et qui devraient permettre, répète le ministère de la Santé, d'atteindre l'objectif de 20 millions de Français vaccinés mi-mai et de 30 millions vaccinés mi-juin.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1, et pour l'heure, 13 millions de Français ont reçu au moins une dose. Cela représente un adulte sur quatre. On est sur la bonne voie, estime ce soir Emmanuel Macron. Toujours à propos de vaccination, cette annonce importante, attendue depuis longtemps par les travailleurs dits de deuxième ligne. 400 000 d'entre eux vont pouvoir se faire vacciner dès ce week-end. On va voir dans un instant comment ça va se dérouler. En tout cas, pour Daniel, qui est caissière dans le Var, il était temps.
C'est une très bonne nouvelle. Dans le Var, là, par chez moi, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à trouver des créneaux pour se faire vacciner. Toute la journée, on est confronté à un public, des gens de tous âges, de tous milieux qui risquent de nous contaminer. Parce que là, on vit avec la hantise, entre guillemets, d'attraper le virus, d'être malade, de le passer à nos proches, à nos familles. Bon, c'est une tension permanente. C'est vrai que bon, on est protégé, on a les masques, mais bon, je vous dis, on rencontre tellement de monde du matin au soir. On a beau se protéger, le risque est toujours là. Donc c'est vrai que si la vaccination nous apporte cette possibilité-là, de pouvoir revivre normalement, c'est un atout supplémentaire.
Propos recueillis par Clément Le Saffre. Olivier Samin du service éco nous a rejoint. Olivier, expliquez-nous comment va se dérouler dans le détail cette vaccination des travailleurs de deuxième ligne.
Eh bien, à partir de samedi prochain et pendant 2 semaines, y compris le week-end, ces travailleurs vont avoir une priorité pour se faire vacciner dans des centres de vaccination dont la liste va être fixée dans chaque région par les agences régionales de santé. Priorité qui se manifestera par des créneaux qui leur seront dédiés. Alors attention, ça ne concernera pas tous les travailleurs de deuxième ligne, uniquement ceux de plus de 55 ans qui appartiennent à une vingtaine de métiers dont la liste a été dressée ce matin par le ministère du Travail lors d'une réunion avec les partenaires sociaux. Ces métiers, ce sont entre autres chauffeur routier, conducteur de bus, caissière, personnel des pompes funèbres, salarié des abattoirs, agent d'entretien, éboueur, agent de sécurité, métiers qui ont pour particularité soit d'être exercés en milieu clos, soit de présenter des difficultés opérationnelles dans l'accomplissement des gestes barrières, soit d'avoir été identifiés par l'Institut Pasteur comme présentant davantage de risques. Les intérimaires qui travaillent dans ces métiers seront eux aussi éligibles à cette priorité de vaccination. Alors pour pouvoir bénéficier de ces créneaux réservés, il faudra présenter son bulletin de paye, une carte professionnelle ou à défaut, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'on travaille dans l'un de ces 20 métiers. Quant au produit qui sera administré, c'est le vaccin AstraZeneca.
Précision signée Olivier Samin. La France a entamé une décroissance de l'épidémie depuis 5 jours. Baisse sensible mais fragile du nombre de contaminations. Ce sont les mots d'Olivier Véran dans une interview au journal breton Le Télégramme. Le ministre de la Santé se dit par ailleurs favorable à un déconfinement territorialisé. Une idée poussée par de nombreux élus dans les zones où le virus circule le moins. C'est le cas notamment à La Roche-sur-Yon, en Vendée, où ses propos ont été accueillis avec un certain enthousiasme, Charles Guyard.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le maire, Luc Bouard, y voit d'ailleurs une formidable opportunité.
Eh ben, nous, on s'est dit que voilà, on avait pris un petit peu d'avance et qu'on espérait bien être dans les papiers du ministre.
La Roche-sur-Yon est même dans les petits papiers de l'Élysée, puisque le maire a fait part directement à Emmanuel Macron, la semaine dernière, par visioconférence, de sa volonté d'être un laboratoire du déconfinement.
Il sait que la Roche-sur-Yon est prête à accueillir cette expérimentation assez rapidement sur les bars et les restaurants. Il suffit d'adapter ce que nous avons fait au mois de juin, peut-être avec des mesures plus larges. Si on peut pousser jusqu'à 20h, c'est quand même plus intéressant. Et les lieux de culture, c'est prêt.
La preuve avec l'espace d'art contemporain.
Voilà, bienvenue au musée.
Les lieux sont fermés depuis le 30 octobre, mais une exposition attend déjà ses visiteurs, selon un protocole mis en place. Claire Maurer-Montosé, la directrice du service musée patrimoine de la ville.
Donc tout est prévu pour que le public soit en sécurité. Un parcours de visite qui va être organisé de manière à ce que les visiteurs ne se croisent pas. La salle sera plus aérée que d'habitude et la jauge, 18 personnes maximum dans cet espace.
Et les visites guidées seront proposé sur rendez-vous quant à la sortie du musée.
On sortirait par cette sortie de secours et les visiteurs peuvent continuer leur visite de la ville.
Une ville qui espère donc proposer ce test grandeur nature de déconfinement, si possible dès le 3 mai.
Charles Guyard, en Vendée pour Europe 1.
Écoutez le monde changer, Europe Soir. Le 22-22-30.
Un nouveau rebondissement dans l'affaire de l'enlèvement de la petite Mia, retrouvée saine et sauve dimanche dans un squat en Suisse. La justice française a délivré un mandat d'arrêt international contre le gourou complotiste suspecté d'avoir influencé et aidé le commando qui a kidnappé la fillette. Rémi Daillet, c'est son nom, ancien cadre du Modem, réfugié en Malaisie, un homme déjà bien connu des services de renseignement et qui aujourd'hui joue sur les mots, Marion Dubreuil.
Oui, Rémi Daillet, que nous avons pu joindre cet après-midi, refuse de parler d'enlèvement. Il parle de restitution d'un enfant à sa mère. Or, il faut le rappeler, la garde de Mia avait été confiée par la justice à sa grand-mère maternelle en janvier dernier.
Là, c'est la restitution aux parents qui a l'autorité parentale. C'est l'État qui enlève des enfants par dizaines de milliers chaque année. La restitution, est, bah, pour ce que j'en sais, c'est très bien passé. Ces gens courageux ont fait ce qu'il fallait en bon père de famille. Et ils ont parfaitement raison de le faire, et je les en félicite.
En revanche, dès qu'il est question de son rôle concret dans l'enlèvement de Mia, de son implication pénale notamment, Rémi Daillet botte en touche. Il refuse d'expliquer quels sont ses liens avec Lola Montemaggi, la maman, ou avec les 6 membres de ce commando. Il dit simplement qu'il répond souvent aux parents en détresse face à des placements qu'il qualifie d'abusifs, Or, la justice lui reproche plus que son rôle de gourou anti-système. Le procureur de la République de Nancy a précisé qu'il aurait participé à l'enlèvement de la petite fille. Il aurait mis en lien la mère de Mia avec la femme qu'il a hébergée dans sa fuite à Neuchâtel en Suisse. Un mis en cause a expliqué en garde à vue que c'est Rémi Daillé qui avait financé l'opération à hauteur de 3000 euros, le tout depuis la Malaisie, un pays qui coopère mal avec la France en matière pénale.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. De police et de justice, il en était question aujourd'hui dans de nombreuses villes de France. Manifestation des forces de l'ordre écœurées par le verdict du procès en appel de la violente agression de policiers à Viry-Châtillon en 2016. 8 des 13 jeunes suspectés ont été acquittés. C'est 3 de plus qu'en première instance. Il faut changer la loi, a dit ce matin sur Europe 1 Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France et candidat à la présidentielle. Il propose, s'il est élu, d'envoyer automatiquement en prison tous les agresseurs de policiers, de gendarmes, de pompiers ou de maires. Réponse sèche sur Twitter d'Éric Dupond-Moretti. Aucun policier, aucun magistrat n'acceptera de substituer le principe de la justice à la logique de la rafle, écrit le garde des Sceaux. Depuis que Xavier Bertrand a précisé son idée, ces peines automatiques seraient instaurées au terme d'un procès. La France perd un ami courageux, réaction de l'Élysée après la mort d'Idriss Déby. Le président tchadien au pouvoir depuis 30 ans est décédé ce matin des suites de blessures reçues ce week-end alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord du pays. Immédiatement après l'annonce, un conseil militaire dirigé par son fils a pris le pouvoir et dissout l'Assemblée nationale et le gouvernement. Cette disparition soudaine inquiète au plus haut point la communauté internationale et en particulier la France car Idriss Déby était un allié indéfectible dans la lutte contre les djihadistes au Sahel. Un partenaire clé, explique Antoine Glaser, grand spécialiste de l'Afrique.
C'était vraiment quelque part l'homme de la France dans la région qui a les seules troupes aguerries en soutien à l'opération Serval puis Barkhane. Idriss Déby, il était quand même quasiment de droit divin au Tchad. Donc sa disparition, ce n'est pas simplement la disparition d'un président, mais aussi la disparition surtout de quelqu'un qui maîtrisait complètement les codes avec tous ses voisins avec qui il avait des relations privilégiées. Donc c'est un coup dur en fait pour toute la stratégie militaire d'Emmanuel Macron dans la région. C'est au moment où il a annoncé au mois de février qu'il aimerait bien que la France, Barkhane, soit plus en première ligne, là, ça va sans doute obliger la France d'être un peu les mains dans le cambouis pour pas que le Tchad s'effondre.
Le journaliste spécialiste de l'Afrique, Antoine Glaser, joint par Johanna Chabas pour Europe 1. Prenons maintenant la direction des États-Unis avec cette annonce imminente au procès de Derek Chauvin, l'ex-policier jugé pour le meurtre de George Floyd. Le jury qui s'était retiré depuis hier pour délibérer est parvenu à un verdict. Il va être annoncé d'ici une vingtaine de minutes. En attendant, c'est toute l'Amérique qui est fébrile ce soir, en particulier à Minneapolis, où l'ambiance sur place est très tendue. Sonia Dridi, vous êtes notre correspondante aux États-Unis.
Oui, à Minneapolis, les habitants retiennent leur souffle, les commerces sont barricadés dans l'attente du verdict, des milliers de membres de la garde nationale et de policiers sont déployés dans la ville, beaucoup craignent des manifestations à Minneapolis et dans le reste du pays si l'ancien policier est acquitté ou ne reçoit pas une lourde peine. Derek Chauvin encourt jusqu'à 40 ans de prison si le jury est convaincu à l'unanimité qu'il est coupable des trois chefs d'accusation, meurtre, homicide involontaire et violence volontaire ayant entraîné la mort de Floyd. Aux États-Unis, les condamnations de policiers pour meurtre sont très rares, mais la médiatisation de l'affaire, l'enjeu pour la police et la pression de la rue pourraient influencer l'issue du procès. Le jury est composé de 6 personnes blanches et 6 afro-américains, un détail important vu le contexte racial entourant l'affaire. Dans l'attente du verdict, le président Biden a appelé la famille de George Floyd, leur disant qu'il priait pour eux. Une fois le verdict annoncé, il a prévu de s'adresser à la nation.
Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Washington et Bruxelles qui s'inquiète de la présence massive de troupes russes le long de la frontière ukrainienne. Le chef de la diplomatie européenne parle du déploiement le plus important jamais enregistré, tandis que Kiev déclare craindre une attaque sur son sol. On passe au foot avec ce contraste saisissant ce soir. D'un côté, la Super League, créée pour éliminer l'incertitude du sport et maximiser les revenus, projet d'ailleurs dont Chelsea et Manchester City, deux des 12 membres fondateurs, seraient sur le point de se retirer, selon plusieurs médias britanniques. Et de l'autre, la Coupe de France, où l'incertitude justement donne tout son charme à cette compétition centenaire. Illustration ce soir avec le début des quarts de finale et cet exploit des amateurs de Rumilly. Ils ont battu 2-0 Toulouse, club de Ligue 2 et se qualifie donc pour les demi. Prenons maintenant la direction de Perpignan où se joue l'autre rencontre de la soirée entre là aussi des amateurs, Canet en Roussillon qui avait éliminé Marseille en 16e de finale et Montpellier, 8e de Ligue 1. Match que l'on suit avec vous, Romain Boselli, avec un possible deuxième exploit ce soir.
Eh oui, peut-être un deuxième exploit ce soir. C'est reparti depuis 12 minutes en seconde période. Et l'exploit, effectivement, peut-être en marche pour Canet en Roussillon qui mène 1-0 dans cette rencontre de quart de finale de Coupe de France. But signé à Toufik Ouadoudi sur pénalty à la 25e minute. On le rappelle, Montpellier qui en plus est réduit à 10 dans cette partie suite à l'expulsion de Vitorino Hilton. Justement sur cette faute ayant entraîné le pénalty pour Canet. Ça complique encore plus la tâche pour Montpellier qui n'a pas montré grand-chose en plus depuis le début de cette rencontre. Cette équipe de Canet tombeuse déjà de l'Olympique de Marseille en 16e de finale qui se prend donc à rêver de demi-finale dans cette compétition. 1-0 pour les Catalans. Montpellier qui va devoir absolument réagir dans cette fin de partie pour s'éviter une grosse douche froide dans cette Coupe de France. 1-0 à la 58e ici à Perpignan.
Merci beaucoup Romain Boselli en direct de Perpignan. On revient vers vous Romain d'ici quelques minutes à la fin de cette édition. La météo, Anissa Dadi, la journée de demain sera un peu plus humide.
Oui, en particulier sur le quart sud-est. Demain, Julien, le Massif central, la région Rhône-Alpes, la Provence, le littoral méditerranéen. Dans toutes ces régions, demain, la journée va commencer sous la pluie. Ouais, désolé de vous l'annoncer, hein. Dans l'après-midi, les averses deviendront un petit peu plus éparses, mais c'est vrai qu'en début de journée, il va vous falloir un parapluie. Les averses, elles gagnent la moitié nord demain après-midi. Elles vont toucher le territoire de Belfort, la Lorraine, l'Île-de-France, la Basse-Normandie et la Bretagne. Quelques petites gouttes dans ces régions sont attendues partout ailleurs et en particulier à l'ouest du pays. Là, nous avons un ciel qui alterne entre nuages et éclaircies. Les températures, elles sont stationnaires, hein, toujours douces, avec 3 à 11 degrés demain matin, nous aurons 3 à Nancy et Rouen, 5 à Metz et Lille, 7 degrés pour Paris, Grenoble et Biarritz, 11 à Nice. Et puis au meilleur de la journée, de la douceur, c'est stationnaire comme hier, 12 degrés à Boulogne-sur-Mer, 13 à Saint-Étienne, 15 degrés à Nîmes, Clermont-Ferrand et Lyon, 16 à Nice, 18 degrés pour Bourges, Ajaccio et Paris, 20 degrés à Bordeaux et 21 la maximale pour Mont-de-Marsan.
Merci beaucoup Anissa Dadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com, suivi de l'interview Echo qui s'intéresse ce soir à Alan, un assureur santé pour les entreprises qui est devenu une nouvelle licorne française, plus d'un milliard d'euros de valorisation. Son cofondateur, c'est l'invité dans quelques minutes d'Emmanuel Duteil. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Les prises de bénéfices se confirment ce soir à Wall Street. Après leur tout récent record, les marchés terminent à nouveau en baisse ce soir.
Oui, la baisse se poursuit pour le Dow Jones, moins 0,75%, 33 821 points. Le Nasdaq lui perd 0,92%, 13 786 points. Les géants de la tech ont joué les troubles fêtes. Apple perd 1,3%. Le groupe a pourtant présenté ce soir un nouvel ordinateur de bureau iMac et une tablette iPad Pro, moins 0,9% pour Netflix, qui dévoile en ce moment ses résultats trimestriels. Et c'est décevant apparemment, puisque le titre chute, mais dans les échanges après bourse. La sanction est lourde aussi pour United Airlines, plongeon de 8%. Ah oui. La compagnie a vu ses vols chuter, évidemment, ces derniers mois. Et puis on a tout de même Johnson & Johnson qui progresse de près de 2% grâce à son vaccin anti-Covid. Les ventes, lui, ont rapporté 100 millions de dollars sur les 3 premiers mois de l'année.
Changement de ton radical à la Bourse de Paris. Après avoir passé brièvement les 6300 points hier, le CAC 40 repart en très forte baisse.
Ouais, la fin de l'euphorie pour le CAC 40. Après avoir enchaîné les séances de hausse, il rechute de 2,1%, 6165 points. Changement d'ambiance aussi du côté des entreprises qui ont publié leurs résultats financiers aujourd'hui, avec une grosse déception pour Atos, le spécialiste des services du numérique, a livré des résultats trimestriels en baisse et jugé décevant par les analystes. Atos signe la plus forte baisse du CAC 40, moins 6% ce soir.
Les autres résultats financiers du jour sont boudés également par les investisseurs.
Avec M6 qui recule de 1,2% malgré une marge opérationnelle courante record en 16 ans pour le groupe de télévision grâce à des économies de coûts. Et puis repli aussi de plus de 1,8% pour Danone qui maintient atteint ses objectifs après un recul de l'activité au premier trimestre. Forte baisse ce soir pour les marchés européens. Londres lâche 2%, Francfort moins 1,5%, Milan chute de 2,5%, moins 2,9% pour Madrid. Et le CAC 40 termine en repli de plus de 2% à 6165 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître de Boursier.com et à demain Claire. 22h20 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Jean-Charles Soimelian.
Bonsoir Emmanuel.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le cofondateur d'Alan. C'est quoi Alan ? Eh bien, c'est un assureur santé pour les entreprises. Vous avez une application qui se présente comme extrêmement innovante. Vous avez été fondé en 2016 et vous connaissez une croissance extrêmement forte sur ce marché. Mais si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est que vous êtes devenu une licorne. C'est quoi une licorne ? Eh bien, ce sont ces fameuses jeunes pousses, ces entreprises qui dépassent le milliard d'euros de valorisation. 1,4 milliard pour être précis. Dans votre cas. Première question toute simple. On ne vous connaît pas finalement, Alan. Qu'est-ce que vous faites de mieux que les autres ?
Alors, on a complètement réinventé l'assurance complémentaire santé. En effet, pour les entreprises et les travailleurs indépendants, on a des entreprises de zéro à plusieurs milliers de personnes. Et ce qu'on fait, c'est on rend l'assurance santé extrêmement claire, quasiment instantanée. On a par exemple 85% de nos remboursements en moins d'une heure. On sait faire des produits sur mesure, on a un service client qui répond en quelques minutes. Et en fait, on n'est pas seulement une assurance santé, on est aussi tout un écosystème de services de santé pour nos membres, de faire de la téléconsultation.
Et c'est parce que grâce à cela, ça commence à bien fonctionner, que vous voulez aller cibler des entreprises de plus en plus grandes. Et c'est pour ça que vous aviez besoin de beaucoup d'argent, quasiment 200 millions d'euros, pour accélérer votre expansion.
Exactement. On a progressivement grandi avec des entreprises de plus importantes. On a aussi lancé des nouveaux segments. On est en très forte croissance dans l'hôtellerie, la restauration, les services à la personne. On est en train de lancer des couvertures pour le commerce de gros, pour l'industrie et bien sûr sur les boîtes de plusieurs dizaines de milliers de salariés. Et on les sert très bien et on les accompagne en effet sur la santé de leurs salariés, que ce soit la santé mentale aussi avec une hotline psychologique. Donc l'idée étant vraiment d'être cette approche holistique de la santé, un vrai partenaire pour les gens dans leur poche.
Est-ce que là, d'une certaine manière, la crise du Covid profite ? Je m'explique. C'est-à-dire qu'on va tous regarder nos dépenses quand on est chef d'entreprise en ce moment. Et on se dit peut-être qu'il y a des solutions, notamment pour l'assurance, plus utiles, moins coûteuses. Est-ce que vous le voyez ?
Exactement. On pense que la situation actuelle a permis d'accélérer le besoin d'avoir des offres claires qui remboursent très vite, parce que les gens ont besoin d'argent rapidement, qui sont au meilleur prix. Et ça, grâce à notre technologie, on permet de réduire les pris dans le temps, qui font gagner énormément de temps aux RH et aux salariés, ça c'est très important, qui sont 100% numériques et en ligne, ce qui aide aussi beaucoup dans un monde comme aujourd'hui. Donc en effet, on est extraordinairement différenciés dans ce contexte actuel et c'est pour ça qu'on reçoit beaucoup de demandes en ce moment.
Ce qui est très intéressant, c'est que vous voulez donc accélérer votre expansion et pour cela, vous voulez fortement embaucher. Je crois qu'il y a 400 embauches qui sont prévues là dans les mois à venir.
Exactement, on est aujourd'hui 350 salariés. On planifie de recruter 400 personnes sur les 2-3 ans à venir, à peu près sur tous les postes, mais vraiment toujours pour continuer à développer nos innovations et nos services de santé, notre différenciation dans l'assurance santé. Tout ça pour atteindre 1 million de membres à horizon 3 ans. On est aujourd'hui à un peu plus de 160 000, ce qui est déjà pas mal en 4-5 ans d'opération, mais l'ambition est encore toute devant nous.
C'est pour ça que vous avez levé des fonds. Généralement, quand les entreprises françaises deviennent des licornes, donc je rappelle, dépassent une valorisation d'un milliard d'euros, elles se vendent souvent à des groupes étrangers. C'est bientôt pour vous ?
Alors nous, on a une vision très différente, on a une vraie vision très long terme, et c'est pour ça qu'on a choisi ces investisseurs, c'est pour construire une entreprise qui va transformer la santé en partenariat avec le système public pour les décennies à venir. Et du coup, on a vocation à être indépendant. Et c'est pour ça qu'on a une gouvernance qui permet aux fondateurs de rester indépendants, qu'on continue à recruter très fort. On n'a vraiment aucune envie de se vendre.
Vous envoyez aussi un message très fort là du côté d'Alan. C'est-à-dire que même en période de crise, on arrive à trouver de l'argent, à en lever facilement pour comme ça, financer son développement. Vous avez senti un mouvement de confiance pour vous soutenir ?
Clairement, on a eu beaucoup de chance. On a ressenti beaucoup de confiance d'investisseurs. On a reçu beaucoup d'offres et on a choisi les investisseurs qui nous semblaient les plus alignés avec ce qu'on voulait construire et très orientés sur le long terme. Donc oui, en effet, pour les projets qui sont bons, qui sont sains, qui sont en forte croissance, qui ravissent leurs membres, on a un Net Promoter Score qui est autour de 70, qui est comme un Netflix, par exemple, et quand notre marché est plutôt autour de 10, ben ça, ce sont des très bons signaux pour les investisseurs et ce qui a fait qu'on avait beaucoup de demandes et qu'on a pu lever des fonds dans des très bonnes conditions.
Vous avez été fondé en 2016, il y a donc 5 ans. Quand vous avez ouvert la porte d'une certaine manière, quand vous êtes lancé, vous aviez prévu ça, qu'en 2021, vous seriez une entreprise française, une des rares entreprises françaises, des jeunes pousses comme vous, à valoir 1 milliard d'euros, 1,4 milliard même si on doit être précis ce soir sur Europe 1.
On essaie de ne pas trop se concentrer sur la valorisation, mais en revanche, il y a 5 ans, quand on a créé l'entreprise, on avait écrit la vision qu'on est en train d'exécuter aujourd'hui, d'une santé qui est plus simple, d'une santé qui est plus accessible à tout le monde, à la fois sur les prix et sur la compréhension, d'une santé qui est plus personnalisée et qui fait en sorte qu'on a l'impression que ce soit le système de santé qui se plie en 4 pour nous et plus nous qui nous plions en 4 pour le système de santé. Donc ça se concrétise et c'est le fruit de 5 ans de vraiment dur labeur. Après, on avait des ambitions très fortes quand on s'est créé sur notre croissance. On est dans nos objectifs.
Tout ça, c'est fait en accent quand même beaucoup sur l'humain. Vous avez une vision très libérée de l'entreprise.
Exactement. On croit que pour qu'une entreprise réussisse aujourd'hui, en 2021, il faut qu'elle arrive à mélanger l'excellence. Et il ne faut pas être naïf. On est dans un monde très compétitif. Donc, il faut être excellent, inventif, grandir très vite. Mais ça, c'est compatible avec le bien-être. Et le bien-être dans l'entreprise vient au travers de la confiance, de la responsabilisation, de la transparence radicale, d'une culture du feedback qui est saine, de supprimer beaucoup la plupart des meetings. Et du coup, on essaye de construire en effet une entreprise qui a un corps sain et un esprit sain pour mieux servir nos membres et les entreprises qui sont nos clients.
Eh bien Jean-Charles Samuelian, un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Alan. Alan qui est donc l'une des nouvelles pépites françaises. Un grand merci d'avoir été notre invité. Nous on se retrouve demain 22h20 sur Europe 1.
Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. On vous retrouve également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Vous serez en direct du centre commercial Parly 2 en région parisienne, évidemment fermé en ce moment, mais qui prépare sa mue pour le monde d'après. Vous en parlerez avec la patronne de ce centre commercial, l'un des plus grands de France. 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. On commence avec les échos, fraude fiscale, les leçons d'une année hors norme. C'est le titre principal du journal économique qui publie ce chiffre, 7,8 milliards d'euros. C'est la somme issue de la fraude fiscale que l'État a récupérée l'année dernière. Alors ça paraît énorme dit comme ça, sauf que c'est 30% de moins qu'en 2019. La raison de cette baisse est simple, les aides aux entreprises ont davantage mobilisé les agents du fisc, dont les contrôles ont tout de même permis d'éviter 5,9 milliards d'euros de versements indus au fonds de solidarité. Vos autres quotidiens sont nombreux à titrer sur la disparition du président tchadien. Mort d'Idriss Déby, le Tchad déstabilisé, c'est la une de La Croix. La France privée de Déby, peut-on lire en une de Libération qui rappelle que le président tchadien était la cheville militaire de Paris au Sahel, un allié indispensable dans la lutte contre les djihadistes, mais aussi un allié encombrant, écrit Alexandra Schwarzbrod, tant le maréchal autoproclamé régnait de manière autoritaire et avait un sérieux penchant pour le népotisme. C'est d'ailleurs son fils qui s'est aussitôt proclamé président à la tête d'un conseil militaire de transition, et ce hors de tout cadre constitutionnel, ajoute l'éditorialiste de Libé. On termine avec Le Figaro qui s'intéresse aux voitures électriques, le grand défi de l'industrie française, titre Le Quotidien, et pour cause, la fin plus rapide que prévu du moteur à essence contraint toute la filière à se restructurer. Elle pourrait perdre plus de 100 000 emplois dans les 15 ans à venir. À lire donc demain dans Le Figaro. On termine, comme promis, avec un dernier crochet à Perpignan pour les quarts de finale de la Coupe de France de football, avec ce match entre les amateurs de Canet-en-Roussillon et les pros de Toulouse, Romain Boselli, qui viennent d'ailleurs d'égaliser.
Ouais, les pros de Montpellier qui ont égalisé, effectivement, la 72e ici à Perpignan pour ce Montpellier Canet. Un but partout donc, dans cette partie désormais. C'est Andy Delors qui a égalisé, bien servi par TJ Savanier sur un magnifique coup franc, une magnifique combinaison des Montpelliérains sur ce coup-là. Le tout sur l'une des rares occasions montpelliéraines dans cette cette soirée. Canet en Roussillon qui avait ouvert le score, on le rappelle, par Wadoudi sur pénalty à la 25e minute. Le club de National 2 qui joue, on le rappelle, à 11 contre 10 depuis le carton rouge adressé à Vitorino Hilton en première période. Suspense garanti, en tout cas pour ce dernier quart d'heure dans ce quart de finale de la Coupe de France, à la clé, on le rappelle, une place dans le dernier carré de cette compétition qui réserve beaucoup de surprises cette année.
Merci beaucoup Romain Boselli en direct de Perpignan pour Europe 1. Et puis j'ajoute que Manchester City vient d'officialiser son retrait du projet de Super League dont il était l'un des 12 membres fondateurs. Manchester City qui officialise son retrait suite notamment à l'opposition de son entraîneur Pep Guardiola, très critique sur ce projet. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
C'est une bonne nouvelle que je viens de vous annoncer, non ?
C'est une excellente nouvelle car je trouve que ce projet est assez horrible. C'est le projet de l'argent. Je pense qu'il y en a suffisamment dans le football pour qu'on en remette une couche. Mais bon, ça n'est que mon avis.
Il est important. 39-21 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne qui débute donc maintenant.
Exactement. Et nous, on se retrouve à 23h pour votre flash. À tout à l'heure, Julien.